semaine sur la climatisation. Hein. Comme réponse au réchauffement climatique. Et on trouve régulièrement ce type de discussion dans lesquelles on se retrouve à chercher des réponses à quelque chose qui, certainement, en tout cas de source scientifique, vient d'un trop de la part de l'humanité. Des réponses qui sont, elles aussi, basées sur plus, toujours plus. Plus d'énergie, plus d'électricité, plus, plus. Comme si c'était impossible pour nous, surtout les Occidentaux, d'envisager que le chemin soit un chemin qui nous demande du moins. Alors, dans ce contexte, j'ai entendu cette semaine un éditorial économique qui posait la question « Où est passée la fameuse sobriété ?» qui était présentée il y a quelque temps par les pouvoirs publics comme la réponse, la sobriété. Alors, au-delà des questions politiques qui ne sont pas l'objet des discussions ici, je vous propose de nous arrêter ce matin sur cette notion de sobriété que nous n'épuiserons pas ce matin, mais parce qu'elle est profondément biblique et parce que justement ça m'a interpellé sur mon propre positionnement. Les Écritures, en effet, nous invitent régulièrement à la sobriété. Et non pas à la sobriété comme une contrainte temporaire pour répondre à une crise, mais comme une ligne directrice pour l'ensemble de notre vie. La sobriété comme façon de vivre. Et d'ailleurs, c'est connu que le protestantisme a fait de la sobriété une de ses valeurs fondamentales. C'est connu. Et je vous invite pour aborder cette question, en tout cas, au moins pour planter quelques graines dans nos esprits, à méditer trois passages. Trois petits courts passages. La première lettre de Pierre et une deuxième dans la lettre de Tite. Et je les lirai dans la traduction Pain sur les eaux, qui a été élaborée par l'équipe de notre cher Marc. Vous avez des exemplaires de cette traduction qui sont en vente à la sortie. J'ai trouvé qu'elle était très intéressante. 1 Pierre 1,13, on a étudié cette année cette lettre. Voici ce qu'est Pierre écrit. « Soyez plein de sagesse et soyez sobre. Espérez jusqu'au bout par la grâce que Dieu va vous donner à la révélation de Jésus. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et contrôlez-vous. » Une traduction de « soyez sobre, contrôlez-vous » pour pouvoir prier. On va revenir plusieurs fois sur ce verset. Un peu plus loin, Pierre écrit « Laissez tomber sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. Restez lucides et faites attention. » Autrement traduit, « Soyez sobres, veillez. Restez lucides. Faites attention, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui fermement par la foi. » Et puis enfin, dans la lettre de Tite, « Tite, agis de cette façon parce que la grâce de Dieu est devenue visible. Cette grâce peut sauver toute personne. Elle nous apprend à vivre sans tomber dans les extrêmes, avec justice et pour plaire à Dieu ici et maintenant. » Une traduction que vous trouverez dans d'autres traductions sous la forme « Mener plutôt dans le temps présent une vie sobre, juste et digne de Dieu. » Je vais y revenir. Et Paul continue en disant « Nous rejetons aussi les désirs qui viennent du monde. Cependant, nous attendons toujours l'espérance pleine de joie. Cette espérance, c'est notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ que nous allons voir dans toute sa gloire. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous afin de payer le prix demandé pour nos actes contraires à la loi. Il l'a aussi fait dans le but de rendre pur par lui-même un peuple qu'il a choisi et qui va être très motivé pour faire de bonnes actions. » J'arrête ici. C'est ma lecture de la parole de Dieu. Est-ce que ces textes peuvent résonner pour nous aujourd'hui? Je le crois. Qu'est-ce qu'on peut esquisser comme... Enfin, ressortir. Déjà, on voit que le concept biblique de sobriété, il associe deux idées clés. La réduction volontaire et la modération au service d'une action plus ajustée, plus lucide. En fait, l'idée, c'est de se dépouiller pour se concentrer sur l'essentiel, c'est ça l'idée. Soyez sobre, restez lucide. Il y a un lien entre les deux. À chaque fois, la sobriété, c'est le moyen d'y voir plus clair pour être plus disponible à l'action de Dieu, et notamment à la prière. Vous avez ce verset qui insiste. Et on voit que ici, Pierre ou Paul ne séparent pas du tout le matériel et le spirituel. Les deux sont liés parce que c'est notre vie. Je trouve toujours dangereux et dommage, ou dommage et dangereux, dans ce sens, que dans la culture évangélique, on tendance à parler du spirituel comme si c'était pas, c'est quelque chose qui était là à côté. C'est nous, le spirituel, le physique, tout ça, c'est une unité. Et la sobriété, elle touche toutes ces dimensions. C'est d'abord un état d'esprit qui engendre un mode de vie ajusté. Cette sagesse de la modération, c'est pas l'exclusivité des textes bibliques, puisqu'on la trouve dans toute la sagesse antique, chez les philosophes grecs, même gréco-latins, les latins s'étant inspirés des grecs, évidemment. C'est une notion de dépouillement, de modération, dans les sentiments, dans la façon de vivre, elle est déjà présente. Vivre de manière réfléchie, mesurée, sans excès. Et dans la lettre à Tite, Paul invite tout le monde, les jeunes, il énumère les jeunes, les hommes et les femmes les plus âgés, à cette vie raisonnable aussi. Dans la pondération, c'est un mot qu'on n'utilise plus, pondérer, hein, qui est traduit ici, éviter de vivre dans les extrêmes. Je trouvais que cette traduction elle était très intéressante dans le contexte actuel. Chrétien serait-il un centriste? Ça, c'est très libriste. Vous savez, chez libristes, on cherche toujours l'équilibre. C'est une course sans fin et qui n'est jamais atteinte, mais on sait que l'équilibre, ça se trouve quand on marche. Je ferme la parenthèse. En tout cas, notre culture centrée sur la consommation, on le sait, nous a inculqué l'idée que la joie allait forcément avec toujours plus d'abondance. Mais en réalité, c'est ce qui ressort dans la Bible, l'abondance engendre plus de frustration. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. J'aime beaucoup ce passage de la chanson de Souchon, Foule sentimentale. Et on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. La sobriété peut être heureuse, selon la célèbre formule de Pierre Rabhi, en ce qu'elle nous apprend à être heureux dans l'état où l'on se trouve, comme disait Paul. Finalement, tout était déjà dans le texte biblique. Et donc, la sobriété, c'est d'abord un état d'esprit qui concerne d'abord notre vie intérieure, qu'elle nous invite à alléger. Vous savez, ces derniers jours, j'ai reçu un cadeau assez inattendu. J'ai eu un problème à l'œil qui m'a contraint à renoncer aux écrans et à la lecture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me restait dans mes journées? Pas grand-chose. Eh bien, quel apaisement. Et ce repos forcé m'a révélé à quel point j'étais habitué à m'en remplir la tête avec plein de trucs. Alors, c'est un peu ma nature, beaucoup, mais le fait de plus pouvoir scroller quelque part, ça m'a ouvert un apaisement que je connaissais théoriquement, mais que je ne mets pas en pratique. Pierre nous met en garde. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Et si l'une de ses armes, on le dit souvent, mais si l'une de ses armes aujourd'hui était la distraction permanente, hein, l'agitation permanente. On voit beaucoup de choses en ce moment sur un phénomène en anglais qui est pas très beau, le brain rot, la putréfaction du cerveau. C'est-à-dire cette espèce de dissolution de notre capacité à réfléchir qui est produite justement notamment par TikTok, c'est-à-dire le format court, très rapide comme ça. On a besoin de tout le temps plus de petits messages rapides. Et dès qu'on s'arrête, on se sent en manque, on se sent vide. Et je crois que ça concerne toutes les générations parce que je vois à quelle vitesse le téléphone portable remplit l'espace. Je sais que j'ai lu que les retraités faisaient partie des plus accros au téléphone. Oui. Ben oui, ça remplit, ça va vite. Le brain rot, c'est le mot de l'année 2024 pour l'université d'Oxford. C'est un phénomène de masse. Ça décrit donc la détérioration progressive de notre capacité à nous concentrer, à lire en profondeur, à soutenir une réflexion dans la durée. Et c'est évidemment la conséquence d'une consommation de petits contenus courts. On s'ennuie vite. Et on est tous concernés. On supporte plus le silence. Et on regarde son téléphone sans arrêt, même sans raison. Qui ne fait pas ça? Si vous le faites, vous êtes vraiment plus fort que moi, en tout cas. Je l'ai déjà dit ici. Mais l'impact sur notre vie intérieure et sur notre vie de prière est évident. Et on a beau le savoir, la question c'est comment agir. C'est là que la sobriété nous rejoint. Et c'est de belles, il y a beaucoup d'idées très intéressantes, très belles dans l'encyclique Laudato Si du pape précédent, le pape François. Il écrit ceci, l'accumulation constante de possibilités de consommer. L'accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. L'accumulation constante de possibilités de consommer, que ce soit des idées, des images ou des objets, ou des loisirs, distrait le cœur et empêche d'évaluer chaque chose et chaque moment. Il parlait de consommation matérielle, mais je crois que la formule s'applique trait pour trait aussi à la consommation intérieure. Et on retrouve là un écho à cette mise en garde de Paul. Ne plus pouvoir évaluer les choses, c'est ne plus être dans la veille, ne plus être dans la vigilance. Et donc, Paul, lui, propose et même recommande fortement une vie dans laquelle le moins égale plus. Une vie raisonnable, il dit. Réfléchis, mesurez, libérez des extrêmes. Alors, c'est quoi une vie comme ça? Je trouvais intéressant la définition qu'on peut rencontrer. En cherchant, j'ai trouvé un site consacré au mouvement minimaliste. Vous savez que c'est un mouvement contemporain, pas du tout spirituel, enfin pas du tout chrétien au départ. Mouvement minimaliste, qui rit peut-être, parce qu'ils imaginent qu'ils font pas du tout partie du mouvement, c'est possible. Le mouvement minimaliste, c'est vraiment, vous savez, ces personnes qui cherchent à vivre avec le moins d'objets possible. Réduire au maximum. Alors derrière, il y a un engagement écologique, etc. Bon. Mais ce qui était intéressant, c'était pas de faire la promotion de ce mouvement-là, c'était plutôt de voir la définition qu'il y avait derrière. Et il y a je sais pas si je l'ai mis d'ailleurs. Non. Un site qui décrit ce mouvement comme un mode de vie dont l'objectif est de se concentrer sur ce qui est vraiment utile pour vivre bien et mieux. Éliminer les excès et le superflu pour ne garder que l'indispensable. C'est une belle définition de la sobriété biblique. Vivre bien et mieux, rester concentré. Et il y a cette formule aussi que je trouvais très belle. Posséder moins d'objets, c'est choisir. Choisir de ne plus être possédé par eux. Bon, je crois qu'on a compris le principe. La question, c'est comment ? Comment ne pas se laisser emporter? Comment vivre ce que nous dit l'apôtre? Comment vivre sans tomber dans les extrêmes pour plaire à Dieu ici et maintenant? Le ici et maintenant est important aussi parce que forcément être tout le temps en train de réfléchir à tout ce qu'on va faire, ça nous enlève. Alors, pas pour rien qu'il y a tant de livres ou de vidéos sur le vivre à l'instant présent, c'est parce que c'est devenu très compliqué. Comment? Je crois que la grande différence entre tous les mouvements de sobriété actuels qui sont très intéressants et l'enseignement biblique, c'est la finalité, bien sûr. La finalité, c'est la perspective de l'amour, du service. Être disponible pour Dieu et pour les autres. Être disponible aussi à soi-même. Pouvoir laisser des espaces vides dans lesquels on va pouvoir laisser résonner ce qui est en nous et qu'on n'entend plus. Il faut attendre que ce soit le corps qui dit stop pour qu'on s'arrête. Est-ce sage? Non. 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 Et cet engagement-là, il n'est pas motivé uniquement donc par le court terme et le fait de bien vivre, mais aussi par la certitude du retour du Christ. Et je crois que c'est aussi ça, la clé. Pierre et Paul insiste là-dessus. En fait, le temps que nous vivons nous est compté. Il est donc encore plus précieux. Il n'est pas compté juste parce que comme tous les humains, notre vie est courte et que nous ne la maîtrisons pas, mais parce que le Seigneur revient. Et à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle de l'humanité, en tant qu'Église, notre temps nous est confié pour que nous puissions aimer et servir et représenter Dieu. Alors, si ce temps-là, on le laisse perdre dans du vide, dans de la bouillie intellectuelle, simplement, ou dans l'agitation permanente, comment est-ce qu'on peut être disponible à ce que Dieu veut nous dire ? Et c'est ça, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et contrôlez-vous pour pouvoir prier. Il y a tout là dans ce verset. La fin de toute chose est proche, c'est-à-dire votre vie ne vous appartient pas. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous confie un service pour sa gloire, témoigner, servir, faire du bien, contribuer à la justice sociale, etc. Soyez donc sages et contrôlez-vous pour pouvoir prier. Et puis dans un autre passage qui est là-haut, la grâce de Dieu nous apprend à vivre sans tomber dans les extrêmes, avec justice et pour plaire à Dieu. Le mot veiller, on le connaît, il est souvent invoqué dans les milieux chrétiens pour parler de l'urgence de servir. Et c'est le mot utilisé par Jésus, cette image qu'il emploie, par exemple, quand il prend la parabole du serviteur, des serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Ils ne savent pas quand il va revenir. Et du coup, l'idée, c'est que le serviteur soit actif, prêt pour être un serviteur fidèle. Tout ça, ça nous renvoie, évidemment, à l'objectif. Mais je crois que cette notion de sobriété nous implique, nous impose ou nous invite à prendre des décisions très concrètes. Et du coup, je propose quelques questions. Tout ça, vous l'avez compris, c'est directement du producteur au consommateur. C'est-à-dire, c'est des questions que je me pose et que je vous partage. Mon attention d'abord. Qu'est-ce que cette attention que le Seigneur m'accorde, capacité d'attention, qu'est-ce que j'en fais? Combien de temps par jour est absorbé par les réseaux sociaux, le scroll, les vidéos courtes? C'est-à-dire, comme toute chose, ce qui est difficile, c'est que ça, c'est plus facile de dire stop. Moi, je sais que je l'ai déjà dit ici. C'est plus facile pour moi de renoncer complètement que de modérer certaines choses. Ben voilà, il faut apprendre à se connaître. Mais combien de choses? Qu'est-ce que ça déplace? Qu'est-ce que ça diffère? Et encore une fois, on peut me dire, oui, c'est excessif, on n'est pas des moines, bien sûr. Et c'est ça qui est encore plus difficile. C'est encore plus difficile de vivre en connexion avec une société agitée sans se laisser entraîner par l'agitation. Donc la question est là. Qu'est-ce que je diffère? Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Après, il y a la question du cerveau aussi. Est-ce que je supporte encore le silence? Un bon test, ça. Est-ce que je supporte la méditation d'un texte ou est-ce que j'ai besoin d'une stimulation constante? C'est pas des fatalités, ces choses. Mon mode de vie. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est superflu dans mes activités? Souvent, je crois que c'est assez classique parce que j'entends dans les discussions, on arrive au mois de juin sur les genoux et on se dit, allez, cet été, je fais le point et à la rentrée, on part complètement différemment. Je suis pas tout seul. Et puis, 15 jours après, on a oublié complètement. C'est comme c'est les résolutions du nouvel an, puis les résolutions de l'été. Mais je crois que le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Ce Père attentif, il nous invite à sans arrêt nous questionner pour faire des petits pas. Et du coup, je finis avec ça. Ma vigilance spirituelle, les préoccupations de cette vie, est-ce qu'elles m'endorment ou est-ce que je suis en éveil prêt à agir pour le Seigneur? C'est des grandes questions. On se dit, c'est trop. Mais s'il y a une de ces questions-là qui nous interpelle, je crois qu'il peut être sage, justement, de l'accueillir, de la mûrir et de prendre une décision simple et concrète. Le petit pas. Qu'est-ce que je décide de changer cette semaine, d'enlever ou de privilégier? Et ça sera bien, et après, évidemment, les choses nous rattrapent, mais au moins, je pose un acte aujourd'hui, un acte de sobriété. Au final, peut-être que vivre la sobriété biblique, c'est choisir la lucidité plutôt que l'ivresse. Et c'est un acte de foi. Vous savez, l'ivresse, c'est-à-dire le fait de chercher ce qui va nous distraire, nous, nous, nous sortir du souci, nous alléger. C'est tellement difficile, on porte tellement, le monde est tellement lourd qu'on a besoin d'espace de détente. Et oui, bien sûr, il faut se détendre. Mais se détendre, c'est un choix. On va se détendre à un moment. Alors que se laisser entraîner par une agitation permanente, ce n'est pas un choix, c'est quelque chose qu'on subit. Choisir la lucidité. Est-ce que nous voulons être lucides ? Est-ce que nous voulons être à l'écoute de ce qui est en nous ? Est-ce que nous voulons être des hommes et des femmes libres ? Des enfants de Dieu qui ont les yeux ouverts, qui sont disponibles pour Dieu et pour les autres. Alors, mettons-nous à son écoute déjà maintenant, que Dieu nous éclaire et nous forme pour son service et son vrai, le vrai bonheur qu'il nous offre. Je propose un instant de silence, qu'on puisse chacun se dire, est-ce qu'il y a une chose qui m'interpelle ? Je la remets au Seigneur, peut-être que je peux lui demander de m'éclairer. Et je prends une décision pour cette semaine simplement. Prenons ce temps de silence et je conclurai par la prière. Père éternel, tu sais de quoi nous sommes faits. Et tu ne nous écrases pas avec nos faiblesses et nos limites. C'est toi qui nous as créés, tu connais nos richesses et nos points faibles. Et tu vois notre désir de te servir et de vivre pleinement avec toi, chaque journée, pleinement, dans toute leur richesse, dans toutes les beautés que tu mets sur notre route. Notre désir de vivre pleinement les rencontres que tu nous permets de vivre, les relations que tu nous offres. Alors, montre-nous pour cette semaine comment vivre ou faire du moins pour faire de la place. Que pouvons-nous enlever pour laisser un espace de liberté supplémentaire ? Éclaire-nous, Seigneur, et aide-nous aussi à nous faire grâce quand nous n'y arrivons pas, et à continuer avec toi, dans l'attente de ton retour. Au nom de Jésus, Amen.